Vous êtes avec SBS French.
On commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, donc pour ce 21 octobre. Autre nouveau pic d'infection au Covid dans le Victoria, alors que l'État se prépare à lever les restrictions. Ce sera à partir de ce soir. Un plaidoyer de culpabilité pour le massacre par arme à feu le plus dangereux, le plus meurtrier aux États-Unis dans un lycée. On verra ça dans ce journal. Et direction la Russie également, l'Union européenne qui décerne un prix des droits de l'homme à l'opposant russe Alexei Navalny. Je viens de vous le dire en titre, un nouveau pic de contamination dans le Victoria avec 2232 nouveaux cas de Covid-19 recensés aujourd'hui, 12 nouveaux décès également. Le sixième confinement de la ville se terminera ce soir à 23h59, 11 semaines après avoir débuté, c'était début août. Cela signifie qu'à partir de demain, les Melbourniens peuvent avoir des visiteurs chez eux, quitter leur maison pour n'importe quelle raison, à n'importe quelle heure et voyager librement à travers la ville avec d'autres libertés qui sont également ouvertes. Le Victoria et la Tasmanie donc, ont officiellement dépassé le seuil de la double dose, 70%, alors que l'ACT, donc le territoire de Canberra, assouplira également davantage de restrictions contre le Covid à partir de ce soir, après avoir franchi pour eux le cap des 80%. On écoute le point avec le Premier ministre, Scott Morrison.
Well, I can officially confirm, just got the figures, Victoria has reached 70.51% vaccination rate, double dose, right across the state, and under the national plan, that means they can now move into phase B. They can start taking the steps, as you say, at 11:59 tonight. The longest road has been journeyed in Victoria, and that long road starts to open up tonight.
Voilà, donc le Premier ministre Scott Morrison. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 372 nouvelles infections au Covid et un nouveau décès. Il s'agit d'une légère augmentation des nouvelles infections 11 jours après la fin du confinement à Sydney. Cela survient alors que le gouvernement de l'État annonce qu'il investira 96 millions de dollars dans un programme pilote de financement de laboratoires pour développer la technologie d'ARN et d'ARN messager du type de ceux qu'on peut trouver dans certains des vaccins donc contre le Covid. Dominique Perrottet, le premier de l'État, dit que le plan pilote sera déployé en partenariat avec le secteur universitaire. On l'écoute.
We believe that New South Wales can be world leading in this space, but we can't do it alone, and we need to learn from the best, partner with the best, and I really think that the partnership that we've had with the university sector during the challenges of the pandemic has grown important trust, but importantly, it provides opportunity and prosperity for our state going forward.
Ah, donc Dominique Perrottet, le premier de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud. Un nouveau cas de Covid sur la Gold Coast a mis les autorités sanitaires du Queensland en alerte. L'homme non vacciné était dans la communauté pendant près de 10 jours alors qu'il était contagieux. Janet Young, la médecin en chef donc de l'État, affirme que l'homme est un chauffeur Uber âgé d'une trentaine d'années qui vit dans un complexe d'appartements de vacances vers Broadbeach. On l'écoute.
And we understand that he was in Melbourne on the 10th of October. We're getting all of that clarified at the moment, but that's our understanding. He then came back into Queensland. He is so sick. This is a man in his 30s. He is so sick that we're having difficulties talking to him and getting information from him.
Voilà, donc Janet Young pour le Queensland, c'est une affaire à suivre dans les quelques prochains bulletins sur notre antenne. 13h05, le Royaume-Uni s'attend à une augmentation du nombre de cas de coronavirus à plus de 100 000 par jour. Cela survient après des avertissements des hauts responsables de la santé dans le pays, selon lesquels le système de santé britannique risque d'être totalement submergé, à moins que davantage de mesures soient introduites pour ralentir la propagation du Covid-19 dans le pays. Mais le secrétaire britannique à la santé, Sajid Javid, a déclaré que le nombre de décès reste heureusement bas, à 100 par jour, et en ce qui concerne la pression du système de santé, elle est énorme, mais elle n'est pas insoutenable, c'est ce qu'il dit. Et M. Javid donc a exclu pour l'instant la réintroduction de mesures telles que le port du masque obligatoire ou encore la mise en œuvre de passeports vaccinaux. On l'écoute.
So we must all remember that this virus will be with us for the long term, and that it remains a threat. a threat to our loved ones, and a threat to the progress that we've made in getting our nation closer to normal life. We're looking closely at the data, and we won't be implementing our Plan B of contingency measures at this point. But we'll be staying vigilant, preparing for all eventualities.
Voilà donc pour la Grande-Bretagne. Autre endroit, autre approche, autre ambiance. Israël qui est en train de surmonter une quatrième vague de coronavirus sans avoir eu à prendre de recours à un nouveau confinement et ce grâce à une vaccination efficace. Sami Boulefika.
En Israël, la situation épidémique est en nette amélioration et pourtant l'été dernier, les autorités sanitaires redoutent le pire. Bien qu'une très large partie de la population soit vaccinée contre le Covid-19, la propagation du variant Delta explose et inquiète. Mais malgré les risques sanitaires, le nouveau gouvernement israélien promet de ne pas paralyser le pays avec un nouveau confinement qui mettrait en péril l'économie. Une stratégie est mise en place, triple vaccination et dépistage sont déployés à grande échelle. D'abord destinée aux plus de 60 ans, la troisième dose est progressivement généralisée. Finalement, tous les citoyens et les résidents étrangers âgés de plus de 12 ans sont invités à recevoir un rappel. Aujourd'hui, 40% des habitants d'Israël ont reçu 3 doses de vaccin. Juste avant la rentrée des classes, en septembre, les autorités israéliennes ont également lancé une campagne de dépistage sérologique massive. Toujours en vigueur, ces autotests s'adressent aux 2 millions de jeunes âgés de 3 à 11 ans et donc non éligibles au vaccin. Selon le ministère de la Santé, le pays enregistre désormais une baisse des cas de contamination au coronavirus.
Et c'était Sami Bouhelifa. Donc pour RFI, 13h07, le président brésilien Jair Bolsonaro a rejeté les conclusions d'un rapport explosif du Sénat brésilien qui le pointe du doigt pour la mort des concitoyens pendant la pandémie du coronavirus. Le rapport recommande même la mise en examen du président, notamment pour des crimes contre l'humanité, pour sa gestion à la réponse du pays donc contre le virus. Les analystes disent que le rapport est beaucoup moins susceptible d'avoir des répercussions juridique pour le président, mais pourrait clairement et nettement entraver sa réélection dans un an. Mais pour le président Bolsonaro, l'enquête est juste politiquement motivée.
How good would it be if the committee was doing something productive for our country? They took time from our Ministry of Health, public employees, humble people, businessmen. They produced nothing besides hatred and rancor.
13h08 aux États-Unis, Nicolas Cruz a plaidé coupable du meurtre de 17 personnes lors d'un massacre dans un lycée, le lycée de Parkland en Floride. C'était en 2018. La fusillade de masse donc au lycée Marjorie Stoneman Douglas était la plus meurtrière jamais commise dans un lycée américain. Le tribunal a appris qu'à l'époque, Cruz était un étudiant de 19 ans. Il avait été expulsé de l'école et il avait des antécédents de problèmes de santé mentale et de comportement qui avaient été décelés. Aujourd'hui, âgé de 23 ans, Cruz a plaidé coupable de 17 chefs d'accusation de meurtre et de 17 chefs d'accusation de tentative de meurtre et a fait une déclaration devant la salle d'audience. On l'écoute.
I am very sorry for what I did and I have to live with it every day. And that if I were to get a second chance, I would do everything in my power to try to help others. And I am doing this for you and I do not care if you do not believe me. And I love you and I know you don't believe me, but I have to live with this every day. And brings me nightmares and I can't live with myself sometimes.
L'opposant russe Alexei Navalny a reçu le prix Sakharov. Le prix Sakharov, c'est un prix décerné par le Parlement européen pour la défense des droits de l'homme, alors que l'opposant russe est encore et toujours emprisonné dans son pays. On écoute Anna-Colline Lebedev, elle est maîtresse de conférence, à l'Université de Paris-Nanterre.
Je pense que c'est un geste symbolique et le Parlement européen est généralement très sensible à ce qui se passe à sa frontière orientale. Un geste symbolique fort pour marquer un attachement à la liberté d'opinion en Russie, au-delà de la figure d'Alexei Navalny. Je pense qu'il représente aujourd'hui, au lieu des Européens, l'opposition russe. Dans le cas de Navalny spécifiquement, les yeux sont quand même braqués sur lui depuis la tentative d'empoisonnement à laquelle il a survécu. Il est devenu une personnalité reconnaissable, une personnalité qu'on n'oublie pas sur la scène internationale. Oui, ce prix est important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire. Je pense que dans ce cas d'espèce, pour Navalny, le combat sera ailleurs. La question de la survie ou non de Navalny en prison, la question de sa sortie éventuelle de prison à la fin de sa sentence, qui n'est pas du tout évidente, parce que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on cherche à le faire rester en prison aussi longtemps que le pouvoir est en place, ça dépendra beaucoup, à mon sens, beaucoup plus de dynamique interne à la société russe que de pression internationale.
Voilà, donc Anna-Colline Lebedev, donc de l'Université de Paris-Nanterre. Un attentat à la bombe a fait au moins 14 morts hier à Damas, la capitale de la Syrie. Alors même si l'intensité des combats diminue, la guerre civile n'a pas fini dans le pays. Et le retour des Syriens exilés semble très compliqué. C'est ce que démontre en tout cas une enquête de l'ONG Human Rights Watch. Les explications de Nicolas Feldman.
Il y a le témoignage d'Abdoul, 39 ans, rentré de Jordanie l'année dernière, arrêté à un checkpoint puis torturé 4 mois dans un centre de détention. Celui de Zoubeïda, sans nouvelles de son mari interpellé à leur retour du Liban. Sur les 65 cas de réfugiés rentrés en Syrie, Human Rights Watch recense 60 violations des droits humains. Arrestations arbitraires, détention illégale, torture, enlèvement. Le plus souvent le fait des services de renseignement syriens mais aussi des milices proches du régime. Ce qui fait dire à l'auteur du rapport, Nadia Hardman, que loin, bien loin du discours officiel de Damas, la Syrie n'est pas sûre pour ceux qui voudraient rentrer.
Il y a ce narratif du régime qui est de dire « tous les réfugiés peuvent rentrer, ils sont les bienvenus », mais on ne voit aucune mesure qui va dans ce sens. Le régime syrien n'a pas changé. Ceux que j'ai interrogés me disent qu'avoir quitté le pays fait d'eux des suspects, et quand ils rentrent, ils sont vus comme liés à l'opposition. Ça implique soit des détentions arbitraires, soit une vie dans la peur que cela arrive.
Le rapport souligne aussi les difficultés économiques. Une fois en Syrie, beaucoup ont eu du mal à répondre aux besoins les plus élémentaires, note la chercheuse. Sur les 65 cas de retour étudiés par Human Rights Watch, près d'un tiers des Syriens ont depuis fait le chemin inverse et de nouveau quitté leur pays.
13h12, coup d'œil météo pour conclure ce journal pour aujourd'hui à travers le pays. À Perth, il fera 20 degrés, Adélaïde 22, Melbourne 24, Hobart 24, Canberra 20, Sydney 22, à Brisbane il fera 26 degrés, Cairns 33 degrés et Darwin 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité. Donc pour aujourd'hui, un nouveau pic d'infection au Covid dans le Victoria, alors que l'État se prépare à lever les restrictions de confinement à partir de ce soir à 23h59. On l'a entendu dans le journal, un plaidoyer de culpabilité pour le massacre par arme à feu le plus meurtrier des États-Unis. C'était dans un lycée. Et on l'a vu également en Russie, Union européenne qui décerne un prix, le prix des droits de l'homme, à l'opposant russe Alexei Navalny.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.